Lundi 22 septembre, il est 18h36 sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web. Et 18h, c'est toujours l'heure de la relève. Bonsoir, c'est la rentrée. Bienvenue dans votre quinzomadaire radiophonique préféré consacré aux nouveaux talents. Une semaine sur deux, pendant une trentaine de minutes, nous vous donnons rendez-vous avec des gens qui débutent. Ce soir, c'est la rentrée. Oui, on a triché, on a fait une pré-rentrée il y a 15 jours. On va parler de fratrie et de famille. Mon invité est écrivain. Mais avant de commencer, que seriez-vous prêt à faire pour lutter contre un géant de la tech? C'est la question à laquelle doit répondre Delaney, une jeune fille, qui en veut beaucoup au tout, une super entreprise de la tech justement, qui contrôle tout sur tout ou presque. Et ça fait beaucoup de tout, mais c'est comme ça. C'est qu'elle a quelques raisons de leur en vouloir. Alors elle se fait embaucher pour la subvertir de l'intérieur en proposant les idées les plus folles qui, bien évidemment, seront adoptées par la direction de l'entreprise. C'est la trame du nouveau roman de Dave Eggers, dont on retrouve ici tout ce qu'on a aimé chez lui, à commencer par le fait que c'est un super conteur, un auteur qui sait écrire et développer une histoire sur 600 pages sans être jamais ennuyeux, comme dans Le Cerc, son précédent roman qui avait été adapté au cinéma. Le tout raconte les grandes entreprises de la tech de l'intérieur et par moments on s'y croirait presque, même si Eggers, comme dans toute satire, s'amuse à exagérer un peu beaucoup. Vous l'avez compris, je vous le recommande, c'est publié chez Gallimard et c'est traduit par Juliette Bourdin, le tout de Dave Eggers. Bonjour Sacha. Ben voilà, je savais que je n'y arriverais pas direct. Bonjour Sacha Georges.
Bonjour.
D'habitude, je répète plusieurs fois le nom de l'invité. Avec vous, je ne sais pas si je vais y arriver. Sacha Georges, donc vous êtes l'auteur, pardon, je suis désolé d'avoir savonné sur votre nom. Vous êtes l'auteur de Physiquement, c'est votre premier roman. Ça paraît aux éditions Julliard. Vous auriez envie de lire le tout ou pas du tout?
Je sais pas, mais ça dépend si c'est très très foisonnant. Des fois, j'ai un peu du mal, moi, les romans très foisonnants, mais le sujet m'intéresse quand même.
Alors, depuis que cette émission existe, ça fait beaucoup d'années. C'est, je crois, la première fois que cela m'arrive. Je ne sais rien de vous, sinon vous publiez un premier roman chez Julliard, je viens de le dire, ça s'appelle Physiquement. Votre éditeur dit que vous vivez et écrivez à Paris, on est content pour vous. Même une très puissante IA générative qui est censée tout savoir, surtout, j'ai pas fait exprès, mais bon. Eh bien, elle ne sait rien non plus. Alors, est-ce que ça vous amuse, ça vous vexe, ça vous nerve qu'on vous connaisse si peu?
Non, ça m'arrange un petit peu dans l'idée un peu peut-être pas sérieuse et pas crédible qu'on peut s'intéresser davantage au texte quand on n'a pas d'informations sur l'auteur ou l'autrice. Mais c'est sûr que ça a des effets de désincarnation et qu'aujourd'hui, on veut beaucoup incarner. Moi, en fait, j'ai choisi donc d'avoir un pseudonyme en fait pour ce roman et en fait donc j'ai fait exprès pour un nom qui fait que c'est
ça difficile soit à prononcer en plus.
Non, c'est pas vraiment exprès, mais non, c'est quelque chose que par contre auquel j'étais, c'est une chose à laquelle j'étais attaché, cette idée de voilà de pas forcément d'avoir un défaut d'incarnation que je conçois comme un défaut, hein. Je sais que c'est des fois plus facile, y compris pour essayer d'avoir un petit peu le style, le genre d'auteur auquel on a affaire, mais bon, c'est dans mon idée, c'est censé en fait mettre davantage en avant le texte.
Ma question était un peu perverse, je sais pas, mais en tout cas j'avais une arrière-pensée, c'est est-ce que vous écrivez pour être célèbre? Est-ce que vous avez une vanité d'écrivain? Est-ce que
je pense que
dit jamais oui dans ces cas-là?
Non, on dit jamais oui.
Vous avez envie d'être célèbre?
On écrit parce qu'on pense que ça a de la valeur et en fait on décide pas tout seul que ça a de la valeur. On décide un peu tout seul que ça a de la valeur, mais la valeur à laquelle on aspire, elle est toujours un petit peu liée au fait qu'on arrive à être lu, au moins par des personnes qu'on apprécie. Et puis évidemment, ça suffit pas. Au bout d'un moment, on a envie d'imaginer que cette valeur elle est plus importante et c'est ce qui donne du sens à ce qu'on fait. Donc c'est pas du tout une manière de mettre à distance la question de bah sinon on écrit dans son coin, hein. Si on publie, on rend public et on essaye d'avoir un public. Donc, donc vraiment, moi mon but c'est que ce livre il trouve son public, hein. C'est pas du tout de l'écriture.
Il y a un an ici, à peu près à la même date, on recevait, je vais pas arriver à dire son nom non plus, Chabi Molia, oui. Qui publie un roman sur des écrivains et qui m'avait raconté qu'il avait, je crois qu'il l'a raconté au micro, donc j'espère que je ne trahis pas un secret, mais qu'il avait un ami qui avait plusieurs romans écrits chez lui, qui ne proposait pas à des éditeurs, que lui avait pu lire et qui étaient des très bons romans, mais qu'il ne voulait pas publier. Donc vous avez des romans cachés,
Alors, je n'ai pas de roman caché parce que j'ai une écriture qui est assez difficile. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un peu de types de gens qui écrivent. Il y a des gens qui écrivent beaucoup et puis qui choisissent. Et puis, il y a des gens qui écrivent peu et qui galèrent pour finir quelque chose. Moi, je suis totalement de la deuxième, de la seconde espèce. Et donc, j'écris peu. Et en fait, quand j'arrive à finir quelque chose, je m'interroge toujours, par contre, à un moment sur la valeur générale de la chose. Et puis, une fois que je me dis qu'elle est suffisante, par contre, non, j'ai vraiment envie de la partager. Mais peut-être que c'est aussi des aspects de célébrité. Peut-être que c'est des aspects de participer au monde dans lequel on vit. Hein. Et puis aussi avoir la parole, ça, c'est des choses qui sont
par oui, parce que votre roman est très contemporain par ailleurs. Vous n'auriez pas pu l'écrire il y a 10 ans, peut-être.
Oui, alors ça c'est quelque chose.
Je n'ai rien à dire sur votre âge, puisque moi j'ai la chance de vous voir, mais oui,
c'est quelque chose.
Je ne sais pas si vous pouviez écrire il y a 10 ans, mais.
Oui, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup en fait, parce que c'est quelque chose que. Je suis très frustré en tant que lecteur de ça, c'est-à-dire que je trouve que. Bon, je le dis de manière un peu radicale, mais on parle trop du passé, quoi. On parle trop du passé pour lui-même. Le passé est hyper important, mais moi il m'intéresse en tant que parfois histoire du présent pour raconter des choses en fait. D'aujourd'hui. Et c'est vrai que à ce compte-là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait au moins une part, voire une bonne part de ce qui s'écrit aujourd'hui, en plus compte tenu de l'actualité hyper dense qu'on a actuellement, qui nous parle d'aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je passe mon temps dans les librairies à essayer de chercher des choses qui parlent d'aujourd'hui, de la culture dans laquelle je vis aussi, en particulier donc la France en l'occurrence. Et je trouve ça des fois un peu difficile en fait de trouver des choses qui parlent d'aujourd'hui. Donc moi, c'est quelque chose que je me contrains beaucoup là-dessus, c'est-à-dire de vraiment d'essayer. Je me contrains parce que ça a des implications sur la langue parfois, parce qu'en fait, je peux le dire, hein, j'ai pas 25 ans et j'écris sur des gens qui ont 25 ans. Et donc,
ils sont même moins là dans votre livre.
Oui, ils ont même moins. Ouais. Et en fait, ça implique quand même pas mal de travail, de recherche. Alors, c'est pas forcément à la quête d'un réalisme langagier parfait, parce que ça, c'est hypothétique. Mais par contre, que ça puisse enclencher quelque chose qui dit ah oui, d'accord, on parle d'aujourd'hui. Ah oui, il y a du rap. Ah oui, il y a une vie culturelle qui est celle d'aujourd'hui.
C'était l'exemple que j'avais donné, c'est que vos héros, ils écoutent du rap.
Oui,
enfin, vos personnages, ils écoutent du rap.
Ouais, bon, enfin, moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, effectivement, il y a.
Non, mais dans les romans français, il n'y a pas tant que ça de personnages, même jeunes, qui écoutent du rap.
Oui, c'est ça. À mon avis, c'est des effets aussi de ce que sont les romanciers en général. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être loin en fait, de cette culture-là. Et puis, ils ont une idée, peut-être aussi, des fois, je ne veux pas dire du mal de mes collègues si je commence, mais ils ont peut-être une idée de l'esthétique, etc., qui les éloigne en fait, de ce type d'esthétique-là. Alors, moi, c'est exactement l'inverse, que non seulement je le mets dans le livre, mais je l'écoute en écrivant. Je pense pas avoir une écriture urbaine, comme on dirait, dans un service culturel d'une mairie, mais je pense par contre que je suis très attaché, même je dirais même que des fois ça frise le jeunisme, hein, c'est-à-dire que je suis très intéressé par la culture en gros contemporaine qui est vraiment là, qui arrive, celle qui arrive maintenant, parce que j'ai l'impression qu'elle est très créatrice, qu'elle est obligée d'être politique très souvent, et ça m'intéresse beaucoup, quoi.
Qu'est-ce qui vous amène à publier aujourd'hui alors? Puisque c'est votre premier roman, physiquement.
Alors, ce qui m'amène à publier aujourd'hui, il y a plein de raisons. Il y a des raisons certainement personnelles, biographiques, il y a des raisons d'opportunité. Mais peut-être que si je dois en discuter une là, ça serait peut-être le fait que il y a des moments, j'ai l'impression que le livre, ce livre-là en particulier, était une bonne manière d'ouvrir une conversation que j'arrive pas facilement à avoir, y compris parfois avec moi-même, et que cette conversation elle est proprement ouverte par en gros la fiction, c'est-à-dire en gros le fait de mettre en place des personnages qui vont eux être pris dans des conversations et dans des discussions, dans des situations aussi, dans lesquelles ils vont être aux prises avec des questions ultra contemporaines, et au fond sans faire quelque chose qui serait mou, un peu centre mou, en disant bah voilà c'est compliqué, etc., que beaucoup de questions puissent être tranchées par en fait la rencontre de situations, la rencontre de personnages, plutôt que par la rencontre d'arguments qui ne sont pas toujours faciles à formuler. Donc par exemple, pour quand même dire un peu des choses sur le fond du livre, pour ce qui est en fait de la violence masculine, de la sexualité contemporaine, etc., qui sont des thèmes très contemporains qui sont abordés dans le livre ne parle pas que ça, mais c'est quand même centralement en fait un des thèmes importants du livre. Je pense que j'ai trouvé ça hyper intéressant à écrire, j'espère que c'est aussi intéressant à lire, d'avoir en fait des configurations, des... Il y a une dimension...
Ça vous aide à réfléchir?
Oui.
En tout cas, ça vous aide à savoir ce que vous pensez?
Ouais, il y a quelqu'un qui me disait récemment que le roman avait un côté roman expérimental, dans le sens où finalement, pas qu'il est expérimental dans son écriture, il n'est pas tant que ça, mais parce qu'il met des personnages et on voit ce qui se passe. Voilà. Un peu comme on disait des romans de Zola à une époque, moi c'est pas du tout ma référence Zola, mais par contre de ce point de vue-là, c'est un peu vrai. Il y a un côté... alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça et qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on entend les lecteurs, on se rend compte que bon, on a une certaine idée en fait quand on écrit, mais c'est l'écriture, c'est un art, et l'art, c'est une pratique sans théorie. Donc, en fait, on arrive et puis on se dit ah, mais en fait, ça nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'il y a des manières de conclure l'expérience chez le lecteur qui peut être très très différente en fait d'un lecteur ou d'une lectrice à l'autre.
Alors, on a une double difficulté pour vous interviewer, hein, je l'ai dit. On ne sait pas qui vous êtes. Et après, il y a dans votre roman, au milieu, un tournant. Il arrive quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a mis dans la même situation qu'un des personnages du roman. Donc, je ne sais pas si je peux le raconter. Je pense qu'il ne faut pas trop le dire, mais en même temps, c'est compliqué de ne pas le dire. Et en tout cas, il y a au milieu du livre... Donc c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, on va quand même dire ça, je vais essayer de pitcher sans trop en dire. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, il y a le frère qui s'en va, la sœur qui reste, on est en Bretagne, ils sont été élevés par leur maman qui est institutrice, qui est un personnage qui est pas qui a pas l'air très sympathique en tout cas. Et entre eux, il y a un motif de cassure. Alors, je ne sais pas si vous voulez en dire plus. Allez-y.
Oui, on peut dire peut-être, pour juste aller avancer un tout petit peu plus que ce que vous venez de dire, que c'est la sœur, en fait, apprend, en fait, découvre d'une certaine manière la violence de son frère, en fait. Du coup, elle se sent concernée, évidemment, par cette violence. Et c'est autour de ça, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en fait, quand on découvre ça, surtout quand on est concerné, comment on avance, est-ce qu'on confronte, est-ce qu'on nuance, on se dit mais finalement c'est mon frère, c'est pas si grave, etc. Donc là il y a tout un jeu en fait autour de ça, ça fait partie en fait de l'expérience en fait que font ces personnages.
Alors le garçon il s'appelle D, on découvre son prénom en cours de route, il s'appelle Dorian, mais au début du livre il s'appelle D, c'est un vingtenaire. Alors en vous lisant, moi j'avais noté qu'il était quelque part, vous avez bien ce que vous en pensez et... Les auditeurs nous diront ce qu'ils en pensent. Et entre eux, bon, il n'y a personne qui appelle. Hein. Entre l'étranger de Camus, ou alors on va faire comme dans les radios à une époque, on va faire des faux appels, on va demander
je fais
à des gens
je fais
de faire des
auditrices,
voilà.
Auditeurs, si vous voulez.
Ouais, c'est très bien. Moi, j'avais noté quelque part entre l'étranger de Camus et les premiers romans de Houellebecq. Est-ce que ça vous va comme description de D?
Alors non, pas du tout, ça me va pas, parce que les références me vont pas, mais je vois pourquoi. C'est-à-dire,
je parle vraiment du tout premier, hein, exemption ouais. du domaine de la lutte, hein, parce qu'après Houellebecq, c'est illisible.
Je comprends, mais même sur
même Camus l'étranger, ça vous plaît pas?
Non, parce qu'en fait, c'est cette dimension qui est classique dans ce roman, cette dimension d'absurde, c'est-à-dire le fait de dire on ne sait pas pourquoi les choses se passent, alors qu'en fait, je pense que tout le roman, il consiste à dire que il peut y avoir des choses qui sont complètement radicales, bizarres, presque ouais. étranges, mais et un peu froides. Par exemple, parce que là, il y a un vrai point commun. Hein, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un vrai point commun. Mais quand la violence est froide, ce que raconte Camus, c'est elle vient de nulle part. C'est l'absurdité de la condition. Enfin, je ne vais pas comparer à ce romancier, mais ce que je veux dire, c'est que et puis à cette œuvre-là qui est majeure. Mais par contre, en tout cas, moi, ce que j'essaie de raconter, et je pense que ça, c'est un point très important pour moi dans le roman, c'est-à-dire que au fond, c'est vrai que les gens sont aux prises avec les comportements des uns et des autres, mais d'une certaine manière, par des voies qui sont parfois purement factuelles en fait dans le roman, qui sont liées à des décors, à des pratiques, à des espaces partagés, à des moments partagés, etc. En fait, à des mots partagés, à des envies partagées, jusqu'à un certain point, et ben en fait finalement tout le monde est un peu pas responsable, mais tout le monde est un peu pris dans cette violence là, tout le monde en est un peu responsable, oui, et donc en fait effectivement ça change complètement en fait la chose. Après sur Houellebecq, je suis pas assez un éditeur de Houellebecq pour dire, mais je pense que s'il y a des choses, c'est moi je sais quand je le lisais quand j'étais plus jeune, c'était la dimension peut-être contemporaine, un peu critique parfois, en fait il y a
oui,
des aspects un peu
c'est un peu le type qui est perdu dans sa vie. Il apparaît un peu comme ça, votre personnage. Il a arrêté l'école, il ne sait pas trop pourquoi, il aurait pu continuer, il a un petit travail tranquille, mais on sent qu'il ne s'épanouit pas, il n'a pas une vie affectueuse très épanouie.
Ouais.
Il a un peu... il apparaît en tout cas au début comme un homme en crise, un peu un jeune homme en crise. Il a 22 ans, mais il pourrait presque avoir 50 ans.
Ouais. Bah, je pense que la différence, c'est cette lignée-là, un peu sélinienne, houellebecquienne, etc.
Tout,
voilà. Elle est quand même liée à une forme de célébration esthétique aussi de ce type de personnage. Et du coup, elle les met dans des positions dans lesquelles on voit... Et d'ailleurs, il y a une force en fait, là-dedans. Moi, ce n'est pas la ligne que je suis. La ligne que je suis, c'est une ligne dans laquelle je pense qu'il n'y a pas d'esthétisation, je pense, en fait, de cette manière... De partir en lambeaux, enfin je veux dire de pas arriver, parce qu'il y a des formes d'empêchement chez ce personnage, il y a des formes de lâcheté chez ce personnage, alors qu'ils sont, voilà, Houellebecq dirait qu'ils sont constitutifs de tout un chacun, mais moi c'est pas mon option, moi mon option c'est de dire attendez, on va laisser les choses comme ça, est-ce qu'elle peut pas se transformer, alors pas seulement d'ailleurs sur le mode de la rectification, parce que ce qui est intéressant je trouve, c'est par contre et ça c'est aussi une grosse différence, merci d'ailleurs de la comparaison, parce que ça me permet de clarifier, mais c'est qu'en fait le personnage eux-mêmes en fait, sont dans un espèce de plaisir, de désir de s'amender, de changer, de se transformer. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, des personnages type Houellebecquien qui s'abandonnent un petit peu à leur côté un peu...
Je vous ai dit au début. Hein.
Moisi, quoi, voilà.
Au début, j'ai pensé. Ouais. Après, non.
Non, mais c'est intéressant.
Il est mu par ça. Il y a un moment où il est mu. J'ai oublié ce que je voulais vous demander, c'est pas grave. En tout cas, ça commence, vous avez dit que ça parle de la, d'une violence intrafamiliale, je ne sais pas si vous l'avez dit comme ça, en tout cas, elle découvre la violence de son frère, voilà, j'en ai dit peut-être un peu trop. Sa violence, en fait, on la découvre assez tôt avec une scène incroyable, alors, je ne sais pas comment vous avez pu écrire ça, cette scène d'un... Alors, je ne sais pas si on peut le dire là encore.
Alors là, ça serait là, bien peut-être de le maintenir, en fait.
Ça, on maintient le suspense sur ça.
En tout cas, une scène...
qu'on pouvait peut-être le dire parce que c'était au début, mais allez-y. Parce
une scène de violence très forte, effectivement, qui permet un peu de camper le personnage. Alors ça, c'était des choix aussi, c'est-à-dire de faire...
Parce qu'en fait, vous dites tout dès le début.
En tout cas, c'est plutôt l'idée d'un point de départ. Vous savez, il y a des romans en fait, dans lesquels on découvre par petite couche en fait, un personnage. Et par exemple, sur des romans qui parlent des personnages qui sont des personnages difficiles ou violents, par exemple, on va prendre la mesure petit à petit en fait, de ce qu'ils sont capables de faire. Moi, ce n'était pas du tout mon option. Moi, c'était mon option, c'était d'aller tout de suite très fort, taper tout de suite très fort pour dire, bon, et comment on fait à partir de là? Parce que ce personnage, on va le garder. Je sais qu'il y a des lecteurs, des lectrices qui ont vraiment du mal parce qu'après, du coup, on se dit, oui, mais moi, il est foutu, il est perdu pour la France, comme on dit. Donc, bon, voilà. Donc, en fait, il laisse tomber le livre d'une certaine manière parce que c'est trop dur, mais voilà. Alors ça, c'est vrai que là il y a un moment un peu, c'est pas non plus complètement réaliste par certains aspects, mais ça c'est des choses qui sont un peu choisies. Moi je suis toujours un peu, je suis 90% réaliste et puis 10% je me dis non mais on n'écrit pas non plus des romans pour faire des documentaires, donc voilà. Vous voyez, il y a une scène un peu forte au départ, c'était aussi pour faire commencer fort. Il y a aussi des choses d'écriture aussi, c'est que ce roman, ça m'a beaucoup aidé à l'écrire, c'est que j'ai commencé par ça, de me dire voilà, en fait j'ai mon personnage, il est capable de ça, et du coup après il y a une palette qui s'ouvre.
Vous êtes cherché ce qu'il était capable de faire d'autre ?
Oui, voilà, un petit peu ça. Si on se dit, voilà, je sais pas, imaginons, vous allez lire un livre, vous savez, par exemple, sur un criminel de guerre, ou je sais pas, un nazi, quoi, bon, et puis en fait finalement, c'est pas forcément pour le racheter, mais se dire, ah c'est dingue. Ah oui, d'accord, il y a une vie, oui, le type est humain par ailleurs, il sait faire, vous le dites bien en fait, il sait faire des choses, voilà. Il a des compétences, il a des dispositions, il a des désirs, et ils ne sont pas entièrement orientés vers ce qui m'a vraiment surpris ou ce qu'il a identifié, par exemple, que c'est un nazi au final. Donc ça, c'est un truc qui, moi, je trouve ça assez passionnant, hein, parce que c'est vraiment de l'humain à travailler, quoi. Enfin, c'est la matière du roman, quoi.
Je vous posais une question idiote, c'était celle-là que je voulais vous poser, qui m'est revenue. Vous les aimez, vos personnages ?
En fait, je crois que je les aime bien, ouais, quand même. Je les aime bien et je pense que c'est quand même un truc important. Alors ça, je dis ça un peu en toute généralité, je sais pas si c'est vrai, mais on le dit souvent, mais j'ai l'impression que quand on n'aime pas les personnages, même les méchants, c'est un peu compliqué. Après,
pour l'auteur, c'est sûr, parce qu'après, vous passez du temps avec quelqu'un que vous n'aimez pas.
Donc, ouais. Après, il y a quand même une version qui permet beaucoup d'écrire et qui n'est pas vraiment de l'amour non plus, c'est l'ironie. Or, il y a quand même pas mal d'ironie. Je ne sais pas si on la sent dans le livre, mais avec pas mal de personnages, c'est-à-dire dès que évidemment se dessinent des formes de sérieux, un peu d'ailleurs dans tous les sens, en fait, soit par les personnages eux-mêmes, soit souvent, je pense, de manière beaucoup plus implicite au niveau de la lecture, je l'espère, en fait, des choses qui sont de l'ordre de ah oui, quand même. Voilà, il y a des moments où il faut être sérieux, mais quelque part, quand on prend un peu de recul, c'est un peu marrant, quoi. C'est un peu... Donc, moi, j'espère que le livre est marrant, en fait, par plusieurs moments. Mais, et là, je pense que du coup, on s'éloigne un petit peu de l'amour des personnages, mais je pense que c'est, comme on dit, c'est de l'ironie tendre, quand même. Mais après, il faut savoir ce qu'on fait, parce que moi, j'ai des idées sur la valeur des personnages, sur ce que je pense qu'il faut en penser...
Vous avez un jugement moral ?
J'ai un jugement moral. Après.
Je ne vais pas vous le demander, rassurez-vous.
Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, c'est un truc auquel je suis assez attaché aussi, c'est que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir les lecteurs qui ont donc du coup des espèces d'interprétations assez différentes, des jugements très différents sur les personnages, mais vraiment très différents, parfois opposés, qui prennent des positions en fait opposées. Mais alors que moi, je n'écris pas du tout de manière ouverte. C'est-à-dire que moi, je n'estime pas écrire de manière ouverte. Je n'écris pas forcément pour guider les gens vers une idée morale, mais par contre, j'essaie de les amener à un endroit précis. Où c'est ça qu'il va falloir décider, c'est ça qu'il va falloir un peu choisir. Et voilà.
Pour raconter en parallèle quand même l'histoire de sa sœur Lala, Paula, comment vous la décririez, elle ?
Elle
est prise par ce frère avec cette découverte.
Déjà, il faut dire, elle est de son âge, c'est-à-dire elle finit son lycée, elle a un moment où, quelque part, il faut faire sa vie, on ne sait pas encore, mais en fait, c'est le cas. Elle a déjà fait un peu des choix, etc. Elle a fait des options, des trucs comme ça, enfin, comme on fait à la fin du lycée. Et puis surtout, c'est quelqu'un d'un plus, le quatrième le dit, mais qui est assez flamboyant dans l'idée. Et donc, d'une certaine manière.
C'est un peu la reine du lycée ?
C'est un peu la reine du lycée, voilà. C'est un peu la reine du lycée, mais pas la reine dominante, mais la reine qui n'a même pas besoin, en fait, de se complaire dans son pouvoir de reine particulière, juste que tout le monde la trouve super cool, mignonne. Et donc effectivement, en fait, toute l'histoire en fait, qui va amener un peu de noirceur dans tout ça, peut-être la manière de décrire ce personnage, c'est de dire qu'est-ce qu'elle en fait, est-ce que ça s'absorbe, du coup ça s'absorbe très facilement quand on, quand on a tout pour soi, d'une certaine manière, ou est-ce qu'en fait ça vous entame, est-ce que du coup aller voir son frère, lui demander des comptes, est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt la peser, ou est-ce que ça va au contraire la libérer, l'augmenter. Donc ça c'est des questions, ça va typiquement des questions que se pose ce personnage.
Il y a ses copines.
Ouais.
Moi, je trouvais que la bande de filles est très bien racontée. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait. Vous avez observé, vous avez interviewé des lycéennes.
Non, j'ai pas interviewé. Moi,
vous avez dit que vous vouliez pas faire du documentaire tout à l'heure. Que c'était pas...
Non, mais ça peut passer par. Ça peut passer. Des fois, on a besoin. Par exemple, ce que je parlais tout à l'heure du langage. En fait, ça, c'est des choses. Je fais vraiment des recherches. Et même des fois, je fais des petits entretiens, etc., pour essayer de voir un petit peu. Mais pour ce qui est des vies, là, c'est beaucoup de l'imagination. Après, c'est des relations. Ouais, ça, je pense que les relations de lycée, moi, m'ont toujours un peu fasciné, en fait. Donc c'est sûr qu'il y a des formes de transposition à faire par rapport au fait que bah, moi, je suis pas une femme, donc c'est des filles d'aujourd'hui, etc. Mais après, est-ce qu'on est suivi, est-ce qu'on est écouté par ses proches, est-ce qu'on s'y retrouve, est-ce que de quoi on parle, etc. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont assez profondes.
Et là aussi, elles sont déjà... d'ores et déjà à un moment un peu clé, parce qu'elles sont très soudées, mais elles savent plus ou moins que le moment va se disloquer, enfin que leur groupe va se disloquer parce qu'elles ont chacune des choix différents. Il y en a une qui veut faire du théâtre, l'autre, j'ai oublié, là, elle fait des études de biologie, si je me souviens bien, mais je ne me souviens plus ce que fait la troisième.
Ouais. Peu importe, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, elles sont classiquement écartées par la fin du lycée, et puis ça sent déjà ça, parce que finalement, il y a des... C'est ça aussi un petit peu le côté culture jeune, c'est-à-dire que ça vous rapproche un peu de force. Un lycée, ça vous rapproche de force. Donc les gens vous connaissent depuis longtemps, il y a des espèces de proximité, d'attachement qui se font. Et puis finalement, quand la vie elle se redéploie, elle se redifférencie aussi. Donc vous pouvez vous éloigner. C'est vrai qu'elle le pressente un peu et que ça a un des rapports aussi avec la question du fond, puisqu'effectivement, est-ce qu'elle va, là, ce personnage, donc un personnage important de la sœur, est-ce qu'elle va, elle va pouvoir s'allier avec ses copines? Est-ce que, au contraire, non, les petits éloignements en fait vont plutôt faire qu'elles seront pas là pour elle. Ça, c'est des choses qu'elle-même ne sait pas. Alors ça, c'est un truc important aussi, c'est que les personnages eux-mêmes, ils tâtonnent, en fait, ils découvrent ça, ils découvrent, en fait, ils essayent des fois de rattraper les choses, d'évaluer. Mais alors, est-ce qu'ils vont se construire avec tel autre personnage, ou est-ce que finalement c'est pas la bonne voie? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Et donc, pour comme répondre à votre question, ce petit groupe féminin du départ, c'est à ça qui sert aussi. Évaluer, alors moi j'écoute de la K-pop et en fait c'est de mon âge, est-ce que... Voilà, ça peut être des petits trucs, mais en fait ça c'est des choses qui sont très importantes en fait dans la construction des uns et des autres.
Alors vous aimez ce qui se passe aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui? Moi je suis désolé, je vous emmène en 1994. On va écouter de la musique, ça s'appelle Les Nuits Chrysler et c'est Philippe Pascal. We'll be right back. Voilà, c'était les nuits Chrysler, Philippe Pascal. On avait un petit problème, je crois qu'il était en mono. Ça nous a ramené dans les années... Oh là, même avant les années 80, ça... Ouf. Allez, on enchaîne. Et ben... On enchaîne, on est toujours avec Sacha Georges, auteur de Physiquement, publié aux éditions Julliard. On parle de votre roman toujours, de votre premier roman, donc Physiquement. On a beaucoup parlé des personnages, du récit, avec ce qu'on pouvait en dire. Il y a aussi un travail quand même sur la forme, on parle quand même de littérature. Là. Alors par exemple, il y a des dialogues, mais sans les codes habituels du dialogue, le tir à la ligne. De la même façon, il y a un moment, je crois que le personnage lit un texte, vous l'avez intégré à votre texte, un texte qui n'est pas d'un bloc, mais il y a des retours à la ligne, mais il n'y a rien d'autre quand vous parlez d'autre chose. Je me dis que quand on fait ça, on a une raison de le faire. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'était parce qu'il y a quand même toute une histoire autour de la parole dans votre livre, est-ce que c'était parce que vous ne vouliez pas qu'il y ait un moment, qu'on puisse par un moment dire « il a dit ça ». On ne peut plus jamais dire il a dit ça puisqu'il n'y a pas les codes. Enfin, voilà. Je vous laisse répondre. Je suis en train de m'enfoncer plus qu'autre chose.
Non, mais j'imagine qu'il y a des liens, qu'on peut faire des liens et que j'en trouverai assez facilement avec l'histoire particulière. Après, c'est vrai que j'écris comme ça et je pense que pour d'autres histoires, j'écrirai peut-être encore comme ça. Donc il y a déjà une première raison, c'est que, enfin peut-être j'en ai deux que je vais citer. Oui. La première, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché à la continuité et j'ai l'impression que finalement, la multiplication en fait pas forcément des guillemets, bon, ça, les guillemets, j'aime pas trop, voilà. Bon. Mais je dis la vérité, voilà. Mais en fait, je vais voir chacun. Non, l'autre raison qui est quand même, parce que là, c'est quand même plus particulier à ce type d'écriture, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits moments qui sont collés. Par exemple, au bout d'un moment, je sais pas, un personnage lit un site internet sur son téléphone, ça vient dans la suite. Et ça, c'est parce que moi, je suis très attaché à cette idée de dire que quand on parle, même de manière intime, quand on réfléchit, en fait, c'est comme si on collait des petites images de langage qui sont déjà préexistantes, mais qui peuvent, parce qu'on ne les colle pas de la même manière forcément qu'on les a obtenues, ces étiquettes, ces petites images, et qui peuvent donner malgré tout de l'originalité, de la singularité. Or ça, c'est vraiment mon idée, c'est-à-dire qu'en fait il y a une continuité, donc la plupart du temps les personnages ne sont pas en train de lire leur téléphone, donc ils parlent, mais ils parlent déjà en fait avec des petits blocs de langage, avec des espèces d'expressions obligatoires, et ils ont un plaisir de le faire, parce qu'on est content de trouver quelque part des efforts de partager ce qu'on ressent, de trouver dans le langage des choses qui correspondent à ce qu'on ressent. Et puis c'est vrai que le cas limite de ça, bah, du coup parfois c'est un panneau qu'on lit, j'aime bien intégrer effectivement dans le cœur du truc et que ça vienne comme ça, parce que pour moi ça marque aussi le fait que la réalité, c'est que le langage est comme ça, que le langage n'est pas une espèce de production à partir de rien.
C'est marrant que vous dites ça, parce qu'à plusieurs reprises votre personnage, il me semble que c'est dit à deux fois, qui deux fois en fait s'aperçoit que le monde des idées l'intéresse quand il est incarné.
Oui.
Notamment, alors avec il y a un moment, je crois, c'est quand il va dans une librairie, une signature, au moment où l'idée est incarnée, qu'il voit qui a écrit le livre, d'un seul coup, il a une révélation que le monde des idées peut l'intéresser. Et il y a un autre moment, je crois, où vous écrivez qu'il comprend la politique parce qu'elle s'incarne.
Oui, mais je pense que...
Je peux retrouver le passage,
oui,
si vous voulez.
Oui, c'est ça, parce qu'on l'aide. Alors, je ne sais pas, c'est parce qu'elle incarnait. Alors oui, ça voudrait dire que ce que vous avez en tête, c'est que c'est parce que finalement, il y a des corps...
Il avait pris goût à la politique, compris ce que ça voulait dire en réalité.
Oui, c'est ça. Mais là, à ce moment-là, justement, alors je pense, c'est vrai que c'est intéressant comme interprétation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi le fait que c'est des corps qui sont là pour incarner, par exemple, des idées politiques. D'ailleurs, je le dis dans ce passage-là aussi, oui, il faut se rendre compte que c'est pas juste d'être extrême gauche ou d'être la révolution permanente, mais c'est d'avoir ce style-là. Donc voilà, on comprend mieux de quoi il s'agit. C'est pas juste, bon, voilà, alors il est plutôt dans un univers un peu gauche-gauchiste, donc c'est plutôt ce genre d'incarnation qu'il a. Mais je pense qu'il y a autre chose, il y a quand même autre chose, en fait. Il y a quand même l'idée de dire que, aussi, bah, la culture en général, c'est quand même plus facile quand elle est vivante, quand elle est autour de vous, quand elle vous arrive sous forme d'échanges concrets, d'interactions, et non pas en fait en écoutant ou en lisant de manière abstraite. Je pense que c'est plutôt ça, et ça permet aussi de dire que le livre, en fait, c'est là qu'il devient, j'espère pas complexe, mais en tout cas qui donne un peu de jus à ces questions de violence masculine, etc. Il est pris aussi dans un autre mouvement, mais qui vient complètement avec, qui est en gros le goût pour la culture, découvrir quelque chose, avancer, comprendre ce qu'on est. Et pour les personnages, et ça, ils sont tous pris là-dedans, que ce soit Lala, que ce soit son frère, mais aussi d'autres personnages, comme ils grandissent, en fait. Ils grandissent dans tous les sens du terme, en fait. Et bien, en fait, ils découvrent des morceaux de culture, certains qu'ils vont prendre, d'autres qu'ils vont délaisser. Mais c'est vrai qu'en fait, là, par exemple, sur la politique, c'est vrai qu'il va dans une coloc, il découvre quelqu'un qui l'aide à comprendre politiquement. Et ça lui donne envie de s'augmenter. Après, la question, c'est est-ce que tout lui est vraiment possible, autant qu'il le croit, sachant que bah, il a quand même cette question de violence qui se balade en fait sur lui, quoi.
Il y a un libraire qui fait mention de votre livre, on va un petit peu déborder, c'est pas grave, on en profite, il n'y a personne derrière, qui dit que la question n'est plus de libérer la parole, mais de penser la parole libérée. Ça, vous prenez ça, ça vous a motivé, ça vous a mu dans l'écriture de passer de libérer, je le redis parce que je l'ai très mal dit, libérer la parole. La question n'est plus de libérer la parole, mais de penser la parole libérée.
Bah, en fait, j'étais surpris de cette formule et je la trouve vraiment intéressante.
Ah ouais, je la trouve super. Bon.
Moi, je l'aime bien parce qu'en fait, je pense que ça veut dire un truc du type. Alors là, c'est une interprétation, hein, je ne sais pas s'il dirait ça, elle dirait ça, la libraire. Mais c'est que ça veut dire que la liberté de la parole, c'est un travail. Ça se libère, en fait, c'est pas quelque chose qui se déclare.
C'est pas un moment, c'est quelque chose qui dure, c'est ouais, ça que vous voulez dire.
C'est pas quelque chose qui se déclare, je sais pas si c'est ça qu'il ou elle a voulu dire, c'est pas quelque chose qui se déclare du type, ah voilà, on ouvre une vanne, voilà, ça serait ça, déclarer la liberté de la parole. On institue la liberté de la parole. Moi, je pense que la parole libérée, c'est en fait, on peut très bien dans une situation extrêmement libre et spontanée, et ça correspond aussi un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur le langage. Si vous dites, j'ai vraiment dit ce qui me venait en premier, est-ce que vous dites quelque chose de libre? Bah, pas forcément. Et je pense que là, pour moi, c'est un peu vraiment l'objet de la littérature, en fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, c'est aussi comme ça que je veux faire vivre les personnages. C'est comment on fait pour produire une parole libérée? Bah, en fait, en la travaillant, enfin, genre, je ne suis pas le premier à dire ça, mais ça, je pense qu'il faut revenir à cette idée-là. Il faut trouver des moyens de travailler le langage, de travailler la langue, de travailler les idées, de travailler les images, de travailler les musiques, de travailler les sons, de travailler les rapports, de voir les choses un peu différemment, d'aller dans les interstices, etc. Parce que c'est comme ça qu'on découvre, en fait, justement, c'est encore un terme trop soudain, mais qu'on fait émerger de la liberté. Voilà. Donc, ça serait ça, de la parole libérée, oui, ça m'irait un peu. Ça m'irait même complètement. C'est-à-dire que ça serait pas une liberté qu'on déclare, mais c'est quelque chose qu'on essaie de travailler pour dire, ah, peut-être qu'on pourrait penser mieux, parler mieux, se reprendre les choses mieux en travaillant notamment en fait le langage.
Vous avez écrit un roman politique?
Ah, pour moi complètement. Ça c'est
et je pense c'est important pour vous visiblement là.
Ouais, mais par exemple, on pourrait faire la même chose que je viens de faire sur liberté, sur politique. Ça veut dire quoi politique? Si ça veut dire, ah bah, il y a tous les thèmes en fait contemporains de la politique aujourd'hui qui sont un peu ce qu'on nous demande un certain nombre d'éditeurs aussi. Hein, c'est pas seulement les lecteurs, mais que demandent aussi parfois les lecteurs, un truc qui claque, etc. Bah en fait, ça m'intéresse pas tant que ça. Par contre, si c'est un roman politique au sens de dire, ah bah en fait, il pose des questions politiques, il essaie de travailler des questions politiques, il essaie de faire venir des questions politiques et de les poser sous un autre angle. Oui, je pense pas que ça soit, encore une fois, c'est pas un documentaire, c'est pas non plus un pamphlet ou un manifeste. Mais par contre, en fait, s'il est lu un peu comme par certains aspects, s'il fait naître par exemple des idées de manifeste, bah moi ça me plairait pas mal parce que je pense qu'en fait c'est à cet endroit-là que je me situe, mais même personnellement en fait. Hein.
Vous avez dit à plusieurs reprises de vos personnages qu'ils évoluaient, que ce qui leur arrivait les faisait bouger.
Ouais.
Vous espérez la même chose chez le lecteur? Vous espérez le faire bouger?
Complètement. C'est-à-dire que, alors pas forcément de la même manière que les personnages, parce que c'est pas aussi homologue que ça, hein, c'est d'autres mouvements.
Mais en tout cas, qu'il se fait passer quelque chose en eux, entre avant et après.
Ah, moi, je pense qu'on lit des livres pour se changer, en fait. Hein, donc, mes personnages, là, il y a vraiment un point commun. Mes personnages, vous l'avez dit, au bout d'un moment, ils se retrouvent dans la librairie, ce personnage se met à lire, etc. C'est un fils d'institut, donc il peut le faire. Bon. Et, parce que c'est pas toujours facile d'accéder aussi au savoir et tout ça, enfin, à la culture. Mais par contre, en fait, oui, c'est ce que j'attends des livres. Moi, c'est ce que j'attends personnellement, c'est-à-dire, sans se dire qu'on est en train de. On lit pour faire de soi-même une œuvre d'art, je sais pas, ou se travailler, mais il y a quand même de ça. On ne lit pas pour rien, c'est quand même. Là, c'est pas très long, mais des fois, on lit des gros livres, on passe du temps. Et bon, ça nous laisse des traces aussi esthétiques, etc. Mais même quand c'est purement de l'esthétique, mais quand c'est de la poésie pure, en fait, que ça ajoute à une manière de voir le monde un peu différente, c'est sûr que moi, ça c'est vraiment, vraiment le cœur de ce qu'est un livre pour moi, quoi.
C'est votre premier roman, votre première rentrée littéraire, c'est comme vous l'imaginiez?
Ouais, c'est un peu plus difficile parce que le livre, j'ai l'impression qu'il n'y trouve pas encore en fait des gens pour en parler. Mais merci d'ailleurs de m'avoir invité parce que moi j'aime beaucoup en plus en parler. Je dois le dire. Mais du coup en fait ouais c'est bah on suit ça, on voit le bulldozer des 450 romans qui sortent et puis on croise les doigts pour que le livre ait une vie et qu'il trouve des lecteurs. Il en trouve de toute façon et puis de toute façon il faut travailler. Moi j'essaie aussi je suis en train de travailler sur un autre roman.
Sur le prochain. On
avance.
À tout hasard, on n'a pas préparé avant et s'il y a besoin, je le rajouterai sur le site internet avec le podcast. Vous avez une rencontre prévue prochainement à Paris si des gens veulent venir vous voir?
Non, pas spécialement, mais ça serait. Mais voilà,
non, en fait, j'y avais pas pensé.
Ouais, bah il faut ça viendra certainement. Il y aura des rencontres en fait, bien sûr, mais pour l'instant c'est pas encore calé quoi.
Comment on va faire pour vous suivre puisque vous n'avez pas page Instagram, rien. Vous allez faire quelque chose ?
Eh bien, en fait, ce qu'il faudrait, c'est me lire, en fait. Mais, mais
vous y tenez. Non, mais c'est bien, ouais. C'est un choix radical et intéressant. Et...
Oh, c'est pas très radical. Je ne suis pas entièrement anonyme, sinon je ne serais pas ici. Mais,
ah, vous avez un dit. Voilà. Vous avez un éditeur qui a une bonne attachée de presse.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Sacha. Attention, 1, 2, 3. Sacha Georges.
Bah, merci beaucoup.
Vous avez publié physiquement chez Julliard. On savait peu de choses de vous, mais on en a découvert un peu plus. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu par Radio Campus Paris, il est 18h35 et 51 secondes. On parle encore littérature ce soir à 20h avec la première de Salikoa sur Radio Campus Paris. Voilà, c'était La Relève présentée par Christophe, réalisée ce soir par Delila. Merci Delila. Vous pourrez retrouver bientôt cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. Très bonne soirée. À notre écoute. Au revoir.